On dit que les gens se désintéressent de la politique et qu'ils sont de plus en plus intéressés par leur quotidien. Mais quand on a un quotidien aussi fabuleux que ce qu'on a à Marseille, hein, on ne se laisse pas payer de grands mots avec Marseille est une ville sale, Marseille ceci, Marseille cela, c'est le Chicago. Ça ne tient pas debout. Hein. Il faut qu'on fasse connaître notre quotidien et qu'on le fasse aimer à ceux qui... C'est quand même incroyable. N'importe quel Marseillais, hein, avec un ticket de métro, hein, peut venir dans un site aussi splendide, alors que vous avez des Suédois, des Anglais, des Norvégiens qui y viennent. C'est quand même incroyable, des choses pareilles. Le Frioul, c'est pareil, c'est superbe. Attention, hein, ne nous engloutis pas.
Ville Nature, cette promenade écologique et sonore à la découverte du territoire marseillais. Dans le prolongement de son livre « Marseille, énergie et frustration » sorti aux éditions Autrement en mai 2006, Baptiste Lanastez invite à une série de promenades sur la commune de Marseille, entre ville et nature.
Voilà, là il y a des sables et là il y a des ponts aussi.
Frigane, voilà, typique, hein,
voilà,
les coussins.
Voilà les coussins de belle-mère, regardez.
Là, on a une très belle
là, frigane. C'est les coussins de belle-mère.
Elle est au bord de la route.
Et au bord de la route, ici. Quand j'étais étudiante, je venais herboriser ici avec M. Molinier, père, justement. Et René Molinier et Roger Molinier, son fils, aussi. C'était un de nos terrains botaniques.
Par exemple, autour du musée de la faïence, on est normalement dans l'espace naturel et en même temps, tout autour, on a des pelouses avec des fleurs et des choses comme ça. Donc on est vraiment dans cette on est en plein dans la dualité où s'arrête, j'irais, le jardin public et où commence le milieu naturel. C'est des choses qu'on retrouve tout autour de ce massif. Avec là aussi les maisons qui viennent buter contre un espace naturel. Et dans le même ordre d'idées, les promenades familiales, comme on peut en voir partir de Lumigny ou d'ailleurs, qui sont très faciles, et puis 50 mètres après, on se retrouve en terrain de randonnée. Voilà. La transition est très très rapide.
D'où appropriation des calanques par les populations. Hein, on va dans les calanques, on va dans le massif. Et les gens, le dimanche, les enfants, on va dans le massif. Et un peu une des difficultés de protection d'ailleurs, hein, de gestion contre les forêts, expliquer à ces gens-là qu'il ne faut pas rentrer dans un massif pour des risques de feu, c'est difficile, c'est de la pédagogie. Il y a beaucoup de pédagogie à faire, beaucoup d'éducation.
Ah, est-ce que vous voulez aller un petit peu par là? Là, on est vraiment voilà, à la...
Non, je pense...
Aller plus loin,
Ici, on est à la limite. Hein.
On est à la limite du site hein. Classé.
On est d'accord. Au site classé.
Au Mont-Rose.
Le Mont-Rose. Ici, par exemple, quand j'étais petite fille, il y avait des baraques avec des gitans sédentarisés. C'était vraiment, on avait rejeté ce qu'on ne voulait pas dans la ville, on l'avait rejeté.
Alors ici, Adrien de la Vigne, donc voilà. Propriété du conseil général.
Parc.
Donc là, on est là aussi dans un milieu de transition. Vous voyez qu'on a quand même un aménagement un peu paysager des choses, etc. Et puis dès qu'on passe les petites falaises là, qui l'entourent, eh bien, on se retrouve en plein milieu naturel avec une pente forte, un accès qui devient tout de suite beaucoup plus difficile.
Le projet de Natura 2000 et du parc, c'est de faire ça, et d'ailleurs les collectivités territoriales sont très favorables, faire ça tout le long comme tampon en quelque sorte entre la ville, comme passation en quelque sorte de la ville vers vers les espaces plus protégés.
Alors là, ici, on est dans un milieu très particulier. On va aller voir.
Oh, ça, c'est le Monroe, c'est radio maritime, là-haut. Et voilà, et vous avez comme ça des toutes petites calanques.
Là, on est en bordure de littoral avec effectivement donc, des ceintures de plantes extrêmement rares, puisqu'on est dans un milieu très très sec, quasiment désertique. Et donc là, on a effectivement donc, une partie avec des plantes, je veux dire, très très acclimatées aux embruns marins, hein, notamment le limonium et autres. Et puis en arrière, on a une zone de transition qu'on appelle la zone afrigane, dans laquelle on trouve notamment donc l'astragale de Marseille. Et donc on voit bien là l'impact urbain là-dessus, gravats, dépôts de bouteilles, pas de sentiers balisés, donc on voit très bien l'impact là par exemple sur la zone qu'on voit ici, l'impact des randonnées, enfin des gens qui cheminent le long du littoral, qui ne sont pas canalisés, donc qui s'éparpillent un peu partout. Et donc évidemment on a un impact très très fort. Très très fort au niveau de cette ceinture de végétation qui comprend un nombre très très important d'espèces rares et protégées, puisqu'on est pour un certain nombre de plantes en limite d'air. Certaines plantes, c'est en fait des plantes qui sont plutôt qu'on retrouverait plutôt sur le littoral nord-africain, hein. C'est-à-dire qu'on est vraiment en limite là on est dans
une des
zones les plus sèches de France, voilà. Donc c'est quand même très particulier.
Dans le cadre d'une gestion raisonnée, une gestion écologique, eh bien, qu'est-ce qu'on fait, hein? On balise, on n'empêche pas les gens d'y aller, hein? Mais on balise de manière à ce qu'il n'y ait pas ces espèces de petites allées dans tous les sens, hein? On balise et on fait des défenses, ce qu'on appelle les défenses, c'est-à-dire on empêche les gens d'aller piétiner n'importe où. Hein, c'est-à-dire qu'ils peuvent continuer à venir, mais il n'est pas question qu'ils déambulent n'importe où et qu'ils esquintent tout. Bien entendu, suppression des gravats et ainsi de suite. Hein, c'est ça une gestion écologique et raisonnée d'un milieu comme celui-là. Et pour en garder la beauté, parce qu'il y a une beauté sauvage, tout ce bleu superbe, ce blanc, ça mérite d'être gardé avec quelques taches. Vous voyez ces taches de vert sable, là, de vert un peu... Voilà ce qu'est un avenir écologique d'une zone comme celle-là, si on arrive justement à obtenir les moyens de la gestion.
C'est très récent, hein. Donc on a effectivement ces scories industrielles que l'on découvre petit à petit sur ce littoral. Et qui sont pollués. Donc vous voyez que là et maintenant il y a des barrières de mise avec danger sol pollué et donc interdiction de descendre. Donc on est vraiment, j'irais dans toute l'ambiguïté de cette zone littorale qui est vraiment aux portes de la ville, avec tout ce qui a pu se passer au cours du siècle précédent et dont maintenant qui sont de véritables contraintes de gestion à ce niveau-là. Donc évidemment, ça ne va pas rester comme ça. Hein. Il y a une réflexion et puis des études qui sont menées pour essayer justement de soit d'enlever, soit de coffrer, de recouvrir, etc. Enfin là c'est à l'étude actuellement, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester comme ça. Vous voyez bien cette confrontation en fait avec un passé industriel, je dirais un passé de rejet vers les franges de la ville de tout ce qui pouvait être industriel polluant, hein, et dont on paye un petit peu le prix là maintenant. Une fréquentation aussi bien locale que touristique qui est tout à fait légitime, et puis un souci de préserver un patrimoine naturel, des paysages et un patrimoine naturel qui est exceptionnel, et c'est toute la difficulté de la gestion de ces milieux-là. Donc vont pousser dans les fissures de rochers, hein, là où elles trouvent un tout petit peu de sol pour pousser, et les fissures de rochers sont utilisées comme poubelles, voilà. Donc on va retrouver des plantes qui sont extrêmement rares, etc., dont le pot de fleurs, appelons-le comme ça, est transformé en poubelle. Donc accumulation de bouteilles de bière et autres détritus. urbanisation. En construisant la maison, on a mis tous les gravats à côté sur le site classé et sur, bien sûr, les plantes protégées. Il y a eu un PV dressé.
Il est évident que dans le cadre d'un parc, on sera obligé de reprendre tout ça pour l'aménager et le gérer correctement.
Tout de gravats.
Vous voyez, regardez tous les gravats. Dans une certaine mesure, tant qu'on ne faisait pas comprendre l'intérêt, c'était tentant puisqu'il y avait eu des usines, on avait laissé s'installer des usines qui avaient mis leurs scories. On ne peut pas vraiment accuser les gens de ne pas avoir eu un comportement écologique.
On découvre depuis quelques années quand même la valeur écologique de ces espaces. Et puis il y a aussi de la part du public, une demande de plus en plus forte de fréquentation des espaces naturels, etc. Et donc on passe vraiment d'espaces qui, au siècle dernier, je dirais, ne valaient rien. Enfin, en tout cas, c'était vraiment l'endroit où on allait mettre les choses dont on ne voulait pas. Et maintenant, c'est des endroits qui deviennent très très précieux.
Et en gros, il demande au GIP de gérer quasiment 100 ans de comportement qui n'était pas un comportement nature, quoi, de vision différente du milieu naturel. Et maintenant, il y a une très forte demande pour un milieu naturel beau et propre, avec un soubassement pareil. Il est évident, ça devait arriver, parce que...
Je dirais que c'est un milieu naturel qui est assez extraordinaire parce que ce sont des milieux extrêmes. Voilà. On a quand même donc un socle calcaire extrêmement pauvre, très très peu de sol. On est dans le karst ici. Pratiquement pas d'eau. Le peu d'eau qui tombe dessus s'infiltre tout de suite. Et en fait, la végétation trouve la place qu'elle peut. Sur finalement des surfaces très très restreintes parce que les conditions en fait changent très très rapidement. Il suffit de faire 20 mètres pour trouver des conditions différentes, que ce soit en termes d'exposition, que ce soit exposition au soleil, exposition au vent, exposition aux embruns salés, mais aussi et surtout en termes de sol. Voilà, il suffit qu'il y ait une dalle calcaire à 56 cm sous le sol, sous la surface, et rien ne poussera. À côté, on va avoir une fissure, de la terre dedans, ben on va avoir un arbre qui va pousser. Voilà. Donc on a quand même, je pense que c'est une des principales caractéristiques ici des Calanques, cette extrême variabilité, qu'on retrouve pour tout. On le retrouve aussi dans le cheminement, l'appropriation de l'espace par les gens. C'est-à-dire qu'on va avoir des endroits qui sont extrêmement bien aménagés, où les gens partent avec des promenades du dimanche. Voilà. Et puis on fait 50 mètres, et on se retrouve en terrain pentu, caillouteux, difficile d'accès. Et on refait 150 mètres, on se retrouve devant une falaise à pic avec laquelle il faut pratiquement des chaussures et des cordes pour monter. Voilà. Donc ça, c'est vraiment très, très caractéristique de cet endroit. D'accord. Donc conditions extrêmes égale un peuplement par des espèces qui, elles, sont aussi adaptées à ces conditions extrêmes et donc relativement rares, voire très rares, pour le territoire français.
Vous savez, en écologie, c'est dans les milieux extrêmes que se trouve l'expression de la biodiversité la plus intéressante, parce que c'est là que se trouvent les pressions qui vont provoquer les spéciations, qui vont provoquer les résistances. Et donc, ce sont, au point de vue écologique, des milieux extrêmement intéressants. Et il ne faut pas dire, par rapport à la forêt où les arbres sont au touche-à-touche, c'est pas intéressant. C'est extrêmement intéressant parce que, justement, les milieux extrêmes, au point de vue écologique, sont générateurs de biodiversité.
Donc, si les Calanques font partie de la zone Natura 2000, c'est parce qu'il y a plus de 50 espèces remarquables ici. Et s'il y a un très grand nombre d'espèces remarquables, c'est parce que les conditions sont extrêmes.
C'est un peu rapide, mais c'est un peu ça.
Denise Bellan, on est près de l'île Maïr, un endroit qui a été une des stations de votre thèse,
oui.
C'est ça? Vous pouvez nous en dire un petit peu?
Bon, j'ai étudié les peuplements de substrats rocheux dans le secteur, en gros, entre plus précisément entre 0 et 3-4 mètres de profondeur, et puis le lien avec les espèces plus profondes, c'est-à-dire avec le coralligène. Et j'avais justement une station dans ce secteur-là que j'ai étudiée au cours des années 60, et où je suis revenue plusieurs années après, et que j'ai suivi à propos des études d'impact que nous avons fait pour Cortiou. Puisque maintenant on est en train, après la station chimique, maintenant on est en train de travailler sur la station biologique, et on espère que l'épuration sera bien meilleure et bien plus efficace. Et c'était justement une des zones qui dans le temps fut contaminée, mais qui n'était pratiquement plus contaminée au cours des dernières années.
Alors, autre problème ici, et peut-être plus de l'autre côté, mais là, ce sera difficile d'y aller, sur la partie exposée aux embruns, c'est bien sûr les embruns pollués. Voilà. Donc, les embruns pollués qui tombent sur les plantes et qui les brûlent. Donc, on a des choses très caractéristiques qu'on repère très, très vite sur, par exemple, des plantes qui forment une touffe et dont la moitié, la partie exposée vraiment au vent dominant, est brûlée. Voilà. Des plantes qui sont brûlées à moitié, et ça c'est vraiment très caractéristique de brûlure par des embruns. Il faut savoir qu'on a, une pollution générale en Méditerranée, et puis on a en plus évidemment la station d'épuration de Marseille qui crache, et ici on est vraiment dans la zone, de préférentiel de dispersion du panache de la station.
Par rapport aux embruns, au point de vue écologique, je dirais que naturellement, les embruns brûlent la végétation. Et la végétation est adaptée d'ailleurs à des formes de résistance, des résines, des cuticules plus épaisses. Mais le problème avec les embruns pollués, c'est que très souvent, ils dépassent ces modes de résistance, et on a des nécroses, on a des mortalités plus importantes. En particulier, vous avez par exemple les tensions actives avec les détergents, les détergents qui vont dissoudre les résines, les graisses qui sont en surface et qui vont altérer les cellules et qui vont faire mourir une partie de la plante. Et c'est la raison pour laquelle on se bat contre les pollutions ambiantes, les pollutions atmosphériques, les pollutions de surface, de la mer, qui grâce au ciel ont quand même diminué à cause de tous les plans d'assainissement et de quand même du programme de la Convention de Barcelone qui a prévu que les grandes villes devaient avoir des stations d'épuration. Parce que moi j'ai connu malheureusement une période où avant les grandes stations d'épuration, avant les grands projets, les grandes conventions, on s'attendait à ce que vraiment tout crève, très sérieusement.
Alors si jamais les Calanques deviennent un parc national, les usages de tous les Marseillais et des touristes évidemment aussi vont être modifiés, forcément. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui craignent une mise sous cloche du lieu ou...
Écoutez, moi je dirais que casser ces bouteilles et jeter ces papiers gras dans les trous et au bord de la mer, c'est demander à ce que ça cesse, c'est restreindre les usages des gens, il y a de quoi s'inquiéter, quoi. Voilà, donc le but du jeu, c'est pas d'empêcher les gens de venir. C'est un milieu qui est suffisamment inhospitalier pour qu'on craigne pas, la surpopulation de serviettes au bord de la mer. Le problème n'est pas là. C'est vraiment un problème de comportement. La moindre des choses ici, ce serait par exemple de clôturer ce parking de façon à éviter que les voitures montent, mettre un certain nombre de poubelles, mettre des panneaux d'information en expliquant aux gens que là, ils sont sur des plantes protégées d'intérêt national et que de ramener leurs ordures à la poubelle qui est à 50 mètres. Voilà, c'est simple. Ça, une gestion unifiée, notamment à l'aide d'un parc national, parce que pour nous, c'est vraiment la solution, permettrait de prendre en charge ça assez facilement. Pour l'instant, on est dans des problèmes juridiques invraisemblables pour faire la moindre chose sur les Calanques dès qu'on n'est pas sur de la propriété publique. Et quand on est sur de la propriété publique, dans la mesure où c'est un seul propriétaire, il faut encore que le propriétaire ait des moyens propres pour pouvoir le faire. Et c'est toujours très compliqué parce qu'ils ont une programmation qui est bien sûr étendue. Il n'y a pas que les Calanques, ils n'ont pas que les Calanques en termes de programmation budgétaire. Et bien sûr, les moyens ne sont pas forcément à la hauteur. sûr, dans ces milieux-là, on a aussi, j'irais, une faune, et notamment des insectes, hein, qui sont... vous savez que souvent, les insectes ont des plantes hautes, hein, c'est très spécifique. Hein, et là, on a aussi, qui dit plante rare, dit insectes utilisant cette plante comme plante haute, qui sont très rares aussi.
Parce que un des principes de la biodiversité, c'est souvent ce qu'on appelle la coévolution. Hein, il y a les habitants de la plante qui ont évolué en même temps, qui se sont spécifiés. Et souvent, vous avez une plante endémique, c'est-à-dire une plante qui n'existe que dans ces conditions-là, que là, et elle a souvent des habitants qui sont eux aussi endémiques et aussi spécifiés localement, ce qui, au point de vue biodiversité, représente une richesse inestimable.
Fréquentation, hein, qui est nécessaire ici. C'est évident que c'est un site qui ne peut pas accueillir une telle fréquentation, surtout quand elle arrive avec des voitures. On voit bien, hein, les voitures sont stationnées n'importe où. Et encore, là, on est l'été, on est pendant l'été, donc on a aussi les restrictions d'accès au massif, hein, liées au danger de feu de forêt. Mais il faut voir ce que ça peut être ici, un beau week-end de printemps. Hein. Je veux dire, là, il y a des voitures de partout, garées de partout. Cet immense parking là est plein, voilà, il y a déjà un parking conséquent, hein, mais c'est pas à la hauteur de...
Voilà, c'est voilà, et ça c'est waouh.
Ça c'est rien ça. Ah oui, là,
tu vas peut-être au...
Je voulais montrer éventuellement les impacts de Remblai. Bon, c'est de l'histoire ancienne ça, mais non, ça illustre bien.
On va peut-être à la table d'orientation là-bas.
Ah oui, si tu veux. Oui,
la table d'orientation, elle est, c'est bien pour montrer. Là, au pied, j'avais encore une autre de mes stations de thèse. C'est un parking que je connais particulièrement bien. Yeah, elles sont belles, là, les frigates, regardez.
Et quoi ?
Les peuplements, les frigates. C'est-à-dire, c'est ce peuplement très rare. On a même un pin, les fameux pins qui rasent au sol, un pin d'Alep. En forme littorale qui sont rasants. Et puis alors, vous voyez, là, vous avez la calanque de Calelongue et on voit les pins hauts, on voit déjà la pinède, la forêt, qui monte dans les zones où il y a du terrain. Là, justement, vous avez la diversité dont vous parlez, Fabrice, tout à l'heure. Et vous avez là au pied, là vous avez un très bel herbier, hein, l'herbier du plateau des chèvres. Et puis alors ensuite vous avez les îles planes mer avec justement un très beau coralligène, des grottes sous-marines. Vous avez des sites, et puis au large là-bas vous avez Riou avec sa magnifique face nord avec des tombantes, les grands tombants à Gorgone, et sur la face sud les grands trottoirs à Lithophyllum. Qui sont très beaux. Qui
c'est
sont
quoi, des trottoirs à Lithophyllum?
Eh bien, ce sont justement, c'est un habitat d'intérêt très très fort, très patrimonial. Ce sont des constructions algales qui peuvent atteindre jusqu'à un mètre de largeur au niveau de la mer, comme ça, et que nous sommes en train d'essayer de faire classer de manière à ce qu'on ne débarque pas dessus, qu'on ne les détruise pas, parce que ce sont des marqueurs de niveau marin, et ce sont des constructions, et au point de vue paysager, c'est absolument superbe. Et dans la calanque des contrebandiers, il y en a un très beau qui est en danger d'ailleurs. Et justement, on souhaite le gérer de manière à ce que les gens puissent aller le voir, mais ne pas y débarquer pour l'écraser, pour le piétiner, tout simplement. Alors, et ici, au pied de Calelongue, il y a de très beaux fonds à algues, à cystosaires,
sur lesquels j'ai fait ma thèse, qui sont absolument magnifiques aussi, et qui sont d'une qualité, très, très très bonne qualité d'eau, puisque c'est ouvert au large, et qu'un des vents dominants quand même, c'est en dehors du Mistral, c'est quand même le vent de sud, et qui nous amène de l'eau très pure. D'ailleurs, vous voyez, c'est très très bleu, nous venons d'avoir du Mistral, et nous avons eu un upwelling, c'est-à-dire des eaux profondes qui sont venues, les eaux de surface sont parties au large, poussées par le Mistral, et les eaux profondes sont remontées, vous avez des eaux très très claires et très très pures ici.
C'est pour ça qu'elle est froide là.
Ah, c'est pour ça, entre autres, qu'elle est froide. Vous êtes baigné. Oui, bah, ça a sérieusement baissé parce que la semaine dernière, elle atteignait 28. Maintenant, elle doit être à combien? Elle doit être à, ouais, je ne sais pas, 16. Elle doit être à 16, oui. Mais c'est des eaux très très pures, très claires. D'ailleurs, on voit très bien le fond là.
Denise Belland, est-ce que vous pouvez décrire aux gens qui, parmi nos auditeurs, n'ont jamais plongé, à quoi ressemble un herbier de Posidonie? On en parle beaucoup, mais tout le monde ne sait pas exactement à quoi ça ressemble.
C'est eh bien, ça ressemble à une prairie très haute. Ça a la hauteur d'un champ de blé, et ça ressemble à une prairie avec imaginez des herbes qui ont un centimètre et demi, 2 centimètres de largeur, sur de très grandes étendues. Et puis alors ça c'est ouvert, mais ce qui est absolument fabuleux dans l'herbier de Posidonie, c'est que vous avez des quantités de poissons, hein, là-dedans. Et puis, quand vous avancez un petit peu, entre les pieds des Posidonies, vous avez des algues rouges, vous avez des espèces de bryozoaires, vous avez des quantités d'espèces qui sont rouges, oranges. Donc, il ne faut pas croire que c'est beaucoup plus beau qu'une prairie.
Et les herbiers de Posidonie sont donc des nappes d'une certaine superficie, plusieurs dizaines de mètres sur plusieurs dizaines de mètres,
oui,
et qui
oui,
sont
ça, ça s'appelle d'ailleurs des herbiers.
Qui sont répartis dans la baie de Marseille.
Ah ben il y en a, oui, il y en a ici dans le golfe, enfin dans l'archipel, il y en a pas mal. Il y en a dans le golfe de Marseille. Alors il a passé une période où ils ont été vraiment en régression. À cause de la pollution, à cause des rejets en mer qui n'étaient pas du tout réglementés, on ne se rendait pas compte de ce qu'on faisait. L'artificialisation du littoral d'une manière générale. Mais maintenant, d'abord, l'herbier est protégé. Et donc, avant de faire une construction, de faire un aménagement quel qu'il soit, il faut faire une étude d'impact pour voir si l'herbier de Posidonie ne risque pas d'être atteint. C'est comme ça d'ailleurs qu'il y a eu des problèmes au moment de l'agrandissement du port de la Pointe-Rouge, où le projet sud a été abandonné parce qu'il était sur un herbier de Posidonie. Et alors pourquoi est-ce que l'herbier de Posidonie c'est important? D'abord parce que la Posidonie est une espèce endémique de Méditerranée, elle n'existe qu'en Méditerranée, Posidonia oceanica, et puis parce que c'est une grande source de matière organique, c'est une zone de frayère, c'est une zone de frayère où les poissons vont pondre, où les poissons se reproduisent, c'est un habitat qui protège le littoral, qui protège les plages. C'est un des grands éléments de nos côtes, de protection et d'enrichissement de nos côtes.
On suit sa vitalité assez régulièrement, en fait, exactement en regardant son accroissement, comme une prairie. On va au bord de la prairie, on regarde si l'herbe a gagné ou ça a régressé. Donc on pose des petits jalons et on revient régulièrement voir ça. Et puis on mesure un certain nombre de paramètres de vitalité aussi. Sur ces herbiers, largeur de feuilles, densité.
Nombre de feuilles, voilà. Et d'ailleurs, il y a là justement, il y a une station de suivi où on a pu remarquer au cours des 7 ou 8 dernières années que l'herbier reprenait de la vitalité, ce qui nous donne pas mal d'espoir.
Son envasement s'est stoppé, hein, parce que c'était un herbier qui regressait principalement par l'envasement, hein, des bouts qui étaient rejetés, des fines, hein, qui étaient rejetées par la station d'épuration. Et maintenant qu'on a une bien meilleure performance en termes de rejet de matière, ce qu'on appelle les matières en suspension, et bien on a un herbier qui s'est stabilisé et qu'on espère voir reprendre du terrain dans les années à venir. Voilà, alors là, on a effectivement deux impacts. Il y a d'une part effectivement les scories, hein, ce qui ne veut pas dire forcément un impact fort sur les plantes, parce que apparemment les plantes s'accommodent assez bien des scories.
Oui, le cymbalium, là.
Mais on a plutôt effectivement un problème plus général de santé publique qui reste évolué. Ce qu'on voit bien aussi, c'est les déblais. Là, je crois que c'est des déblais qui ont été tirés du métro, hein, qui ont servi à faire un parking. Et donc on voit bien là l'impact avec une végétation qui est complètement modifiée, qui n'a rien à voir avec la végétation d'origine, et qui, encore là on est un peu en retrait, mais qui descend finalement assez bas, et là aussi un impact considérable sur le milieu.
Alors effectivement, depuis Calelongue, on voit à peu près 200 mètres de sable, de remblai de sable, qui donne lieu à un paysage qui ressemble à des berges de Durance, quelque chose comme ça.
Voilà, ouais, tout à fait.
C'est assez spectaculaire. Donc il y a 200 mètres de remblai de sable qui ont été posés au milieu de... La Roche, ouais, comme voilà. Ça, où a été fait voilà. Un parking dans les années 60.
Oui, là, 60. Voilà, alors ici on arrive à Calelongue. Calelongue, c'est donc une des portes du massif. Hein. Là, on ne peut pas aller plus loin en voiture et à partir de là, il faut partir à pied. Alors, donc à pied le long du littoral.
Vous voyez le sentier de randonnée là-bas.
Voilà, donc en prenant le sentier de randonnée ou en passant directement... par l'intérieur, et là après on vient buter contre les falaises, et là c'est le passage privilégié des gens qui vont faire de l'escalade, et on va peut-être aller un peu plus loin pour parler de ça.
Such precious little time to spend.
Et vous voyez là, là aussi, on bute sur l'espace protégé. Au bout de la rue, là, on est en plein dans le site protégé des Calanques.
On rentre dans le site classé, mais on n'a pas de signalétique. Voilà. Pas de signalétique mis en place. On est là encore en terrain privé, donc on n'a pas une gestion publique, je dirais, de l'espace. C'est un sentier qui est essentiellement pris par les randonneurs et les gens qui vont faire de l'escalade. Sur un site qui est très connu, qui s'appelle le Pas de la Demi-Lune. Et je vous emmène là pour voir un petit peu l'impact, justement, que peut avoir un certain nombre d'usages, et notamment l'escalade. Alors, c'est pas tant la pratique de l'escalade qui pose problème, c'est les accès aux voies. Là aussi, par manque de gestion de ces accès aux voies. Et donc, on a une dégradation. Alors, on la voit assez bien d'ici, au pied de la falaise, là. Une dégradation très, très nette, en fait, de toute la partie végétale sous la falaise, et notamment des éboulis. Les gens passent un peu n'importe comment. Au bout de 4 ou 5 passages, évidemment, ça devient praticable parce que ça se surcreuse, etc. Donc, on crée une voie juste à côté, etc. Et c'est comme ça qu'on a une multiplication de centres d'érosion qui font évidemment beaucoup de mal à la végétation. Il faut savoir que dans les éboulis, on a notamment donc une espèce qui est la gouffeia, l'herbe à gouffer, hein, qui est une petite espèce qui est totalement adaptée donc à la vie dans les éboulis, qui est protégée au niveau national, qui est sur la liste aussi de la directive Habitat. Et qui est, je dirais, peut-être au niveau du site, un petit peu l'espèce emblématique du site. Et à chaque fois qu'on piétine les boulis, surtout si ce piétinement est répété, etc., on détruit cette espèce. Donc ces accès aux voies d'escalade sont un vrai problème pour nous. Et on est en train de travailler justement avec les associations d'usagers pour arriver à mettre en place un minimum de signalétique. Mais là encore, ça ne pourra se faire qu'une fois qu'on aura les moyens d'avoir une gestion unifiée et unique du site. Pendant l'été, ça fait plusieurs années qu'on fait ça, hein, je crois 6 ans maintenant. Oui. Donc on a des patrouilles vertes dans le massif pendant les 2 mois d'été. Voilà. Et puis 15 jours avant la saison, 15 jours après. Alors eux n'ont aucun pouvoir de verbalisation, hein, ils sont là pour informer les gens, leur parler des bonnes pratiques dans le massif. Ils sensibilisent un nombre très très impressionnant de personnes, je ne sais plus combien, de dizaines de milliers de personnes au cours de l'été. Et je pense que ça porte petit à petit ses fruits. Hein. Voilà.
Fabrice Hochet, le GIP, le groupement d'intérêt public Calanques, œuvre donc pour la création d'un parc dans les Calanques. Parmi les réalisations du GIP, dont vous allez pouvoir nous dire quelques mots, on a regardé tout à l'heure une carte qui recensait l'ensemble des habitats dans les Calanques, ce qu'on appelle habitat. Vous allez nous expliquer ce que c'est ?
Si vous voulez, le terme, la notion d'habitat repose finalement sur un groupement qui est essentiellement basé sur la phytosociologie, c'est-à-dire sur les plantes, des groupements de plantes hein, qui finalement trouvent dans le milieu naturel certaines conditions. Hein, et donc en général, elles sont regroupées en associations, on retrouve toujours les mêmes, et c'est grâce à ça qu'on a réussi à répertorier les habitats. Donc ici, sur les Calanques, le problème, c'est qu'on a effectivement une très très forte diversité des conditions hein, extérieures, hein, ce qu'on appelle les conditions édaphiques, hein, pour faire un peu compliqué. Et donc aussi bien en termes de sol que d'exposition au vent, à la lumière, etc. Et donc du coup, ces habitats qui, dans des milieux, j'irais, moins tourmentés, vont se retrouver sur plusieurs hectares. Ici, dans les Calanques, c'est très très restreint. Voilà, donc d'où une carte extrêmement compliquée. En quelques mètres, on va passer dans des conditions radicalement différentes et donc une association végétale différente. Alors pour parler un peu des habitats, on a bien sûr donc des choses très minérales comme les falaises, les rochers. Ensuite, on va retrouver dessous les éboulis, de la garrigue, etc. Et tout à fait à l'opposé, c'est-à-dire dans les fonds de vallon, là où il y a un peu de terre qui a pu s'accumuler, on va retrouver de la forêt, hein, très relictuelle dans les Calanques, parce que malheureusement, l'autre gros problème qu'on a sur le milieu terrestre des Calanques, mis à part la surfréquentation dont j'ai beaucoup parlé, c'est bien sûr l'incendie.
Denise Bellan, le GIP Calanques utilise autant qu'il peut les ressources scientifiques que peut lui offrir la ville à Marseille. Et Marseille est depuis longtemps spécialisée en phytosociologie, donc dans cette science des peuplements. Mmh. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette tradition marseillaise, cette tradition scientifique marseillaise ?
Eh bien, il faut dire que la phytosociologie, enfin l'école marseillaise, qui a été lancée par le professeur Moulinier et puis qui a été repris par de très nombreux scientifiques, qui actuellement d'ailleurs aident à la fois la DIREN c'est-à-dire le ministère de l'Environnement pour faire tous les grands inventaires qui ont été faits, que ce soit les inventaires des NIEF, c'est-à-dire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique, et les zones Natura 2000, sont tous plus ou moins issus de cette école, qui a compris à la fois des botanistes, il y a eu des zoologistes, et dans le domaine marin, bien entendu, au Centre d'Océanologie de Marseille, depuis 1948, date à laquelle le professeur Pérez a pris ses fonctions de directeur dans ce centre. On a toujours travaillé sur les peuplements marins, sur les biocénoses, et pratiquement c'est nous qui travaillons, avec d'ailleurs des collègues qui ont essaimé ailleurs, hein, des collègues de Nice, d'autres laboratoires que du Centre d'Océanologie. Il y a de très nombreux naturalistes de la génération passée qui continuent à travailler. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Fabrice vous parlait de Paul Mout, qui est un professeur de botanique qui travaille énormément pour les calanques dans le domaine terrestre, qui lui aussi est à la retraite et qui continue à travailler, qui a une connaissance absolument encyclopédique. Les géologues aussi travaille beaucoup, et c'est parce que toute une génération des 40-50 ans qui n'a pas été recrutée, parce qu'en France on n'a pas recruté des écologistes, on n'a pas recruté des géologues, on n'a pas recruté des botanistes et des zoologistes. Actuellement on a des quantités de jeunes qui viennent nous demander des stages, qui veulent travailler avec nous, et d'ailleurs au GIP on a très souvent des stagiaires. Au Centre d'Océanologie on prend aussi des stagiaires qui sont absolument passionnés par ces problèmes-là, parce que c'est des problèmes qui nous sont posés sans arrêt par la société, mais on a très très peu de postes.
Voilà. Pour illustrer, donc on parlait tout à l'heure de Paul Mout. Paul Mout a une très très belle image pour un petit peu expliquer la façon dont ça se passe dans les calanques.
Vous rappelez qui est Paul Mout?
Voilà, Paul Mout est professeur de botanique, hein, c'est un élève de Moulinier, de Roger Moulinier, et qui est chez nous au niveau du site, est un peu la personne référente scientifiquement sur la Terre, comme Denise peut l'être sur la mer pour nous. Et lui donne cette image des calanques que je trouve très 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 vraie. Il dit qu'il faut imaginer la végétation des calanques comme poussant dans une infinité de pots de fleurs. Voilà. Donc, et puis ces pots de fleurs, certains sont remplis à moitié par du caillou et puis avec un petit peu de terre. Certains sont bien arrosés, d'autres moins arrosés, etc. Et donc évidemment, dans chaque pot de fleurs, on va avoir une végétation différente qui va pousser plus ou moins bien, prospérer, etc. Et dans les calanques, c'est exactement ça. Alors là, on est par exemple devant une coupe, hein, parce qu'on a une véritable coupe géologique devant nous, avec une petite falaise, et on voit bien ce qui se passe. Hein. On voit très bien qu'on a des endroits où on a donc vraiment le rocher qui affleure, hein, jusqu'à la surface, et là on voit bien que ne va pousser là-dedans que des plantes arbustives très adaptées à la sécheresse, à très peu d'eau, etc. Et puis juste à côté, on voit qu'il y a une faille qui s'est remplie en fait finalement d'un mélange de terre et de cailloux, et là on va pouvoir voir prospérer par exemple ou pousser un pin d'Alep, par exemple, ou un genévrier, là, en l'occurrence. Donc, voilà, on est à 5 mètres d'écart, voilà. Donc, c'est parfaitement l'illustration de cette belle image, là, des pots de fleurs. Alors, du coup, ce qui est très, très important aussi, c'est qu'on a souvent aussi des habitats dits en mosaïque. C'est-à-dire qu'on va avoir, par exemple, un surétage de pins, de pin d'Alep en l'occurrence, et puis dessous on va avoir de la garrigue. Donc en fait on a deux habitats qui cohabitent, alors soit sous forme de mosaïque, c'est-à-dire qu'on va avoir des taches comme ça soit sous forme de surétage. Donc ça, on a beaucoup ça. Je dirais qu'on a pratiquement 70% des habitats sont sous cette forme composée, ce qui rend encore plus difficile, je dirais, la compréhension du phénomène et la gestion des habitats à ce niveau-là, parce qu'un certain nombre d'entre eux sont en devenir. C'est évident que, par exemple, on sait très bien qu'à terme, si sous un couvert de pin d'Alep, on voit commencer à pousser ce qu'on appelle les cortèges de petits feuillus avec dedans du chêne vert. On sait très bien que dans plusieurs dizaines d'années, le chêne vert va prendre le dessus sur le pin d'Alep, puis on va se retrouver avec une chênaie verte, si ça n'a pas brûlé entre-temps. Alors le gros problème dans les calanques, c'est que, par exemple, nous, on a un recul sur 40 années d'enregistrement des feux et de leur emprise. On s'aperçoit qu'il y a des endroits qui, en 40 ans, ont brûlé plus de 4 fois. C'est énorme. Et là alors du coup, on n'a plus d'évolution. Je veux dire, on a une régression vraiment des milieux avec finalement un appauvrissement général. Pourquoi ? Parce que tout ce qui est matière organique est bien sûr décimé par le feu, n'a pas le temps de se reconstituer. Et on a des zones dans les calanques qui sont vraiment très abîmées à cause du feu. D'autres sont très abîmées à cause de la surfréquentation. Voilà. Donc on a un certain nombre d'endroits. Alors l'intérêt de cette cartographie qu'on a fait, c'est que maintenant on connaît les zones. Et quand on superpose cette cartographie avec ce qu'on connaît sur les usages, sur les passages de feu, sur tout ça, on peut commencer à réfléchir en termes de gestion. Ce qu'on commence à faire. Ensuite, il faut avoir les moyens, l'organisation, du personnel sur le terrain, une certaine unité de gestion. Et ça, c'est ce qu'on attend avec le parc national.
Nous possédons dans le domaine terrestre des cartes qui ont 40 ans, 50 ans. Et Fabrice vous disait tout à l'heure qu'on a un certain recul pour les feux, mais on a aussi un certain recul pour la présence de certaines espèces. Quand on dit que certaines espèces ont disparu, alors on vous dit « Ah ben oui, c'était un relevé de Molinier, 1962-63 ». Mais c'est très important, ça. Enfin, au point de vue patrimonial, c'est extrêmement important de savoir que telle espèce y était, ou que, à tel endroit, Molinier ne l'avait pas trouvé. Et ça aussi, c'est très important.
C'est intéressant parce que c'est quand même c'est un truc qu'on a organisé, le GIP a mis en place il y a 3 ans maintenant, en partant du principe qu'il y avait suffisamment de monde et de bénévoles pour accepter d'aller faire le recensement de 2 espèces patrimoniales. En l'occurrence, la grande nacre, la Pinna nobilis, qui est donc
espèce protégée.
Un bivalve, le bivalve géant, là, qui vit dans l'herbier. Vraiment une espèce emblématique de l'herbier. Et puis le mérou, qui donc depuis quelques années bénéficie d'un moratoire. Et donc on voit revenir, mais on n'avait pas de données chiffrées, quoi. On n'avait pas de données un petit peu.
Et là, justement, on touche l'engagement du milieu associatif. Il y a un groupement Mérou qui y participe. Et tous les clubs, les associations qui s'intéressent, les plongeurs viennent. Et petit à petit, ça a aggloméré autour du GIP des participants qui viennent de partout. Parce qu'on leur a donné quelque chose de tangible. D'intéressant à faire.
Et comment ça se passe le recensement là, qui va avoir lieu?
Alors ce qui se passe en fait, c'est qu'on bloque un grand week-end, en général du vendredi au dimanche, et on sort 2 fois par jour en mer, et on va faire donc le recensement avec la participation. Donc on a des scientifiques pour encadrer.
Il y a l'Office de la mer qui participe. Justement, on parlait encore de l'Office de la mer.
Et puis le reste, c'est des plongeurs bénévoles. Mais on a jusqu'à plus de 100 personnes qui viennent plonger. Donc c'est une grosse... en général, il y a un club qui nous héberge. Là, en l'occurrence, cette année, ce sera l'YCPR. Oui. Et on a une organisation. Alors là encore, c'est assez intéressant. On a commencé à faire ça au GIP avec nos petits moyens. Et puis petit à petit, ça a pris de l'importance, de l'intérêt. Et cette année, maintenant, c'est la fédération qui reprend, donc, ce qui pour nous est beaucoup plus intéressant, parce qu'en termes de logistique, de savoir-faire, d'encadrement des plongées, on a vraiment quelque chose de très sérieux. Et du coup, ça a intéressé la ville de Marseille, donc, qui participe aussi cette année, nous a demandé d'élargir ce recensement au Frioul. Donc là, maintenant, on va avoir finalement un recensement sur l'ensemble du territoire marseillais, qui nous échappe un peu au GIP, mais nous on est très contents parce que c'est un peu notre vocation d'initier des choses et après de laisser les choses prendre leur maturité et les gens prendre leurs responsabilités par rapport à ça.
Fabrice Auchet, maintenant que le GIP Calanques a réalisé cette cartographie assez importante, assez détaillée, assez précise des Calanques, qu'est-ce que vous allez en faire de tout ça?
Bah écoutez, là maintenant qu'on a une idée assez précise des choses, on va se lancer à la rentrée là sur justement la gestion. Alors, et on ne va pas faire ça dans notre coin, hein, on a effectivement, bon, bien sûr, un certain nombre d'idées sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, mais surtout, on va le faire en concertation, c'est-à-dire qu'on va lancer toute une série de concertations avec les usagers qui vont, je pense, nous prendre presque une année, c'est-à-dire jusqu'en juin de 2007.
Donc, il ne faut pas imaginer un parc national dans les Calanques avant 2010, ce ne serait pas raisonnable.
Je pense qu'effectivement, on a encore 3 ou 4 ans de travail devant nous.
Donc Fabrice Auchet, je vous pose la question que je pose à tous les intervenants de cette série d'émissions. Est-ce que vous pouvez me dire ce que représente, ce que signifie pour vous l'écologie?
De plus en plus, les gens ont besoin de se retrouver dans le milieu naturel. Je pense que c'est devenu quelque chose qui fait partie des grands bonheurs de la vie. Quoi, voilà. Et ça me paraît très très important de pouvoir préserver cela. Et ça, c'est pas seulement, bien sûr, la défense de la petite bête, c'est aussi discuter avec les gens, les éduquer, discuter avec eux, comprendre leurs problèmes, leur façon de voir les choses, et d'arriver petit à petit à trouver un compromis, parce que je crois que, quand même, de plus en plus, ça passera par du compromis, il faut pas se leurrer. On est dans une société de consommation un peu effrénée, avec une augmentation croissante de la population, des besoins en logement. Donc tous ces espaces naturels sont évidemment l'objet de pressions de plus en plus fortes. Et il faut réussir à les préserver, réussir à faire en sorte que notre société continue à évoluer tout en préservant un certain nombre de choses pour les générations à venir. C'est quand même ça la clé.
Denise Bellan, vous qui avez consacré votre vie à la station marine d'Andoume comme chercheur dans le domaine donc de la biologie marine, vous, quel regard vous avez sur l'écologie? Comment vous définiriez ce mot qui a plusieurs significations?
Alors pour moi, l'écologie, c'est une science de modestie. Modeste pourquoi? Il faut être modeste parce que c'est en faisant de l'écologie qu'on se rend compte que l'homme est un animal comme les autres et subit les mêmes lois, subit les mêmes contraintes que tous les animaux, et comme il est plus intelligent, il doit veiller au maintien des espaces naturels.
C'était Ville Nature, une série d'émissions consacrées à l'écologie à Marseille. Durant tout l'été, du 5 août au 9 septembre. Prochaine promenade, samedi 13h10, et rediffusion tous les mardis à 10h.